17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, Jean-Marc Governatori, candidat à la présidence de la République. Vous avez le vertige, vous êtes saisi par l'idée de rencontrer le peuple français ?
Pas du tout. En fait, je suis déjà président de l'Office régional environnemental dans la région sud, 5 millions d'habitants. J'ai écrit beaucoup de livres, j'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France, donc je connais bien mon sujet. Il y a une vraie réalité de l'écologie au centre dans notre pays. Il y a une vraie impasse qui est créée par mes rivaux présidentiels. Donc j'ai le devoir d'agir avec mon équipe et de porter un autre message.
Parce que tous les candidats n'abordent pas ce que vous voulez aborder. Le seul à dire, moi, j'ai la science infuse, j'ai les solutions, je sais de quoi ont besoin les Français. Donc moi, je veux être candidat, faites-moi confiance. Avec moi, les promesses seront tenues. Quel est le principe de votre démarche ?
Je représente l'écologie centriste en France. Ça veut dire que je suis pragmatique et efficace. Le fait est, et tout le monde en est témoin, que l'essentiel des messages présidentiels aujourd'hui, c'est le grand remplacement dont parlait déjà Jean-Marie Le Pen il y a 40 ans. Et je vous rappellerai à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a 10% de musulmans en France, dont 90 personnes qui ne sont pas musulmans, donc c'est n'importe quoi. Qu'il y a aujourd'hui 3 problèmes sanitaires très graves dans notre pays qu'on n'évoque pas. C'est les cancers, les maladies cardiovasculaires qui tuent 300 000 personnes chaque année en France. Et là aussi, il y a motus. 20% des Français sont concernés par la maladie mentale. C'est la première dépense médicale de France. Personne n'en parle. En matière d'éducation, mes rivaux présidentiels évoquent des idées, mais on sait très bien que l'éducation telle qu'elle, elle n'est pas réformable. Ça doit passer par un débat national public ponctué par un référendum qui donnera la force à la réforme. Eh bien, je suis le seul à le proposer. Aucun n'évoque l'éducation à la santé. Aucun ne rappelle un fait très très grave. C'est que 100% des emplois en France dépendent de 4 matières premières qui seront en rupture de stock dans 30 ans. Ça veut dire que vous, monsieur, vous serez au chômage. Tous ceux qui nous écoutent seront au chômage avec ceux qu'ils aiment. Dans 30 ans, 100% de chômage en France. Pourquoi ? Tout repose sur le pétrole, sur l'uranium, le zinc et le cuivre. Et continuer la même politique, la même économie, veut dire que le chômage de masse va être de plus en plus grand, les prix vont être de plus en plus importants parce qu'on va faire la pénurie de ces 4 matières capitales dans l'organisation actuelle de la société. Donc on ne peut faire l'économie d'avoir un nouveau projet de société, il se trouve que c'est moi qui le porte.
Alors, vous avez un petit peu raison. On a un peu une idée de morosité, c'est un peu bonjour tristesse, hein, les programmes de façon générale. Mais on a surtout le sentiment qu'il y a, que tous les programmes se ressemblent finalement, et que on parle pas aux gens de ce qui les préoccupe au quotidien. Et surtout, Jean-Marc Governatori, on a le sentiment que cette campagne, elle est confisquée par les médias. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que, évidemment, les partis politiques, très peu, les partis politiques ont un peu perdu. Il n'y a pas beaucoup de meetings qui vont à la rencontre des gens. Et on a l'impression que les médias se sont un peu accaparés la campagne, les médias et les instituts de sondage. C'est un peu votre avis ?
Bon, les instituts de sondage, sans doute, hein, surtout qu'en plus on s'est aperçu que les sondages étaient souvent faux lors des dernières élections européennes, régionales, municipales. Les médias, bon, ils sont à l'image de ce que disent les politiques. Et il se trouve que les politiques font beaucoup de démagogie. Il y a Monsieur Mélenchon que tout le monde connaît sur ce domaine, mais d'autres aussi. Et à un moment donné, il faut dire la réalité, comme ce principe de responsabilité que nous portons avec l'écologie au centre, qui n'est dit par personne. C'est incroyable qu'on en ait encore à dire selon la couleur politique, c'est la faute aux immigrés, ou c'est la faute aux multinationales, ou c'est la faute à Bruxelles, ou c'est la faute à un élément extérieur. Les multinationales qui posent problème, c'est vrai, mais ça dépend comment on consomme. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 500 000 Français qui ont décidé de vivre dans des écolieux et qui vivent en presque autonomie alimentaire et en presque autonomie énergétique. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça. Je veux simplement dire qu'on peut faire autrement si on le décide. Donc c'est capital de dire aux Français, vous êtes co-responsables de ce qui arrive.
Alors, Jean-Marc Governatori, vous avez été candidat à pas mal de choses. Une chose est sûre, c'est que on sent que vous avez l'écologie dans votre cœur, vous la vivez, c'est quasiment charnel. Il y a une énergie, une franchise, une passion dans ce que vous défendez. Mais aujourd'hui, l'écologie, elle est transversale. Elle pénètre tous les partis politiques. Elle est quasiment chez tout le monde. Comment vous allez-vous vous singulariser? Comment allez-vous faire pour faire voter pour la personne qui va prendre le bout de papier, va prendre le bulletin de vote Jean-Marc Vanatori? Qu'est-ce qui va les faire aller vers vous?
C'est intéressant votre remarque. L'écologie, elle est partout aujourd'hui, c'est vrai, dans le verbe. Mais l'écologie, il faut qu'elle soit dans l'action. Et l'écologie, c'est un projet de société. Et on ne peut pas être écologiste depuis hier. Moi, je suis écologiste depuis 30 ans. J'ai écrit des bouquins dessus, j'ai travaillé avec les écologistes. Donc, le projet de société écologiste, c'est un projet qui porte des facettes démocratiques, reconnaissance du vote de blanc, non-cumul des mandats, proportionnel ou législative. Les énergies renouvelables, c'est bien d'en parler, mais à un moment donné, il faut les mettre en pratique, hein, parce qu'effectivement, ça fait des décennies que les politiques parlent d'énergie renouvelable. Et le nucléaire est encore omniprésent. Donc, je ne dis pas qu'on va sortir demain matin du nucléaire. Je dis qu'on peut créer les conditions pour réduire sa part. Qui vous parle aujourd'hui d'éducation à l'environnement? Savez-vous que la première source d'énergie, c'est l'énergie que l'on ne consomme pas. Mais pour bâtir et développer cette source d'énergie, celle que l'on ne consomme pas, il faut pratiquer l'éducation à l'environnement. Et incroyablement, même M. Jadot, qui est supposé représenter les écologistes, il ne parle pas d'éducation à l'environnement. Les autres ne parlent pas d'éducation à la santé. Il faut enfin remonter à la source. Il vaut mieux ne pas produire un déchet que d'avoir à le brûler.
Jean-Marc Vanatori, on est dans un moment, avec la crise sanitaire qui est là, on a le sentiment que les gens sont rentrés dans une espèce de dépendance, voire d'allégeance, voire d'infantilisation. Les gens dépendent les uns des autres, Et vous avez un mot que vous mettez en exergue dans votre programme, c'est l'autonomie. C'est une façon pour vous d'aller à contre-courant de l'idéologie dominante face à la dépendance. Vous prêchez l'autonomie alimentaire, énergétique, etc. Comment ça se passe?
Effectivement, quand on est écrivain, on est lecteur. Donc j'ai lu Castoriadis. Et pour Castoriadis, l'autonomie est un projet de société. Et j'ai épousé cette thèse. Parce que effectivement, nous ne sortirons pas de l'ornière si nous ne créons pas les conditions de l'autonomie des régions, de l'autonomie des personnes, et l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique des territoires.
Mais on voit bien que tout est interdépendant aujourd'hui. Je veux dire que le numérique, bien sûr, il est pour quelque chose, et tout dépend de tout. Je veux dire que comment vous allez...
Non, tout repose sur deux problèmes. Donc, pour les candidats conventionnels, les projets reposent sur le productivisme et le consumérisme. Et quand vous faites reposer un projet de société de gauche ou de droite sur ces deux éléments, vous ne pouvez pas être autonome, vous êtes dépendant. Regardez la voiture électrique. Même l'écologiste Jadot propose la voiture électrique, qui est un fléau humain, géopolitique et écologique. Non seulement il pollue les terres, l'air et l'eau, c'est un problème humain, parce qu'effectivement, les pauvres qui doivent extraire le minerai du sol meurent plus tôt que s'ils ne faisaient pas cette activité et tombent malades. Et c'est un problème géopolitique, parce que ça continue à nous rendre dépendants. Moi, je veux une France autonome.
En tout cas, Renault, Nissan, Mitsubishi se sont mis d'accord pour signer la fin du moteur thermique, et il prévoit de créer des milliards de voitures électriques d'ici...
Des millions. Vous vous rendez compte comme c'est grave? Comme c'est grave, ce tournant de l'industrie automobile française et mondiale vers le véhicule électrique. Non seulement c'est une assurance vie pour le nucléaire, parce qu'effectivement le lobby nucléaire porte à fond la voiture électrique, parce que pour lui c'est une garantie. Donc, et je répète, je dis pas qu'on doit sortir du nucléaire. Je dis qu'il faut réduire la part du nucléaire. Et promouvoir la voiture électrique, c'est encore accroître la problématique nucléaire, mais surtout notre dépendance. D'une part à l'uranium pour le nucléaire, et d'autre part avec les métaux rares. Une voiture électrique, c'est une batterie électrique. Du manganèse, du nickel,
alors
du cobalt.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder le moteur thermique?
Il faut garder le... Déjà, quand vous ne changez pas votre voiture, ben vous faites un acte écologique. D'autre part, développer le covoiturage, parce que si vous développez le covoiturage, véritablement, vous divisez par deux l'utilisation de la voiture, et donc vous divisez par deux les pollutions. Il faut prendre l'habitude du transport collectif. Moi, quand je suis à Nice, j'ai l'habitude de la voiture et je prends la voiture. Quand je suis à Paris, j'ai l'habitude du transport collectif, donc je prends le transport collectif. Donc c'est très important de créer cette culture du transport collectif, de créer cette culture du vélo. Et quant aux voitures, au lieu de produire des voitures électriques qui sont une impasse, qui sont vraiment une impasse, on pourrait construire des voitures plus légères, des voitures qui consomment 2 litres ou 3 litres 100.
Donc pour vous, la souveraineté ne se construit que si on est autonome. L'autonomie va avec souveraineté?
Ah ben l'autonomie, c'est le maître mot. Je disais récemment que face aux problèmes chinois...
Vous parlez de l'Europe en disant on veut pas de cette Union européenne. On veut bien de l'Europe, mais pas de cette Europe-là.
Ah ben c'est une Europe qui est à l'image de la France, productiviste et consumériste. Donc c'est une Europe qui nous amène dans le mur. Je disais récemment dans une conférence que la problématique chinoise et la problématique russe, où les dirigeants sont des presque dictateurs, et quand on voit leur attitude et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos économies et par conséquent nos emplois et par conséquent sur le bonheur des gens, nous crient de devenir autonomes, nous crient de devenir autonomes. Mais c'est incroyable, mes rivaux présidentiables ne l'évoquent pas. Et l'autonomie, c'est d'abord, on produit ce qu'on mange et on a l'énergie sur place. Et l'énergie sur place, on peut l'avoir par l'économie d'énergie, par la ruralité et par les énergies renouvelables.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Les grands témoins aujourd'hui, Jean-Marc Govinatori, candidat à la présidence de la République. Avant d'arriver au menu de votre programme, Jean-Marc Govinatori, dans votre déclaration d'intention, vous dites « Il n'y a pas d'égalité sans équité ». Il n'y a pas de fraternité sans laïcité, il n'y a pas de liberté sans respect, et il n'y a pas de responsabilité sans solidarité. Vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que le triptyque républicain, il faut le réaménager, il faut le transformer ?
Ben, faire de la politique, c'est aussi faire de la pédagogie. Donc je veux dire que tout est lié. Vous ne pouvez pas faire une tarte aux pommes si vous n'avez que des pommes ou de la farine. Il faut avoir la farine, les pommes, le sucre, le cuisinier, le four. Il faut un ensemble d'éléments. Et moi, mon boulot de politique, c'est de contribuer à faire que les personnes du pays dans lequel j'évolue connaissent le bien-être durable. Et pour ça, il faut des valeurs. Il faut un cadre, il faut des berges. Et ces berges ne sont pas les trois principes républicains qui sont magnifiques, mais insuffisants. C'est les huit que j'ai évoqués et que vous évoquiez quand je rajoute le respect, la responsabilité, la solidarité. C'est capital de savoir où on va et ce qu'on veut. Ce que veut l'écologie au centre, ce sont ces éléments factuels.
Alors, dans votre programme, vous êtes très attaché à la précarité, aux gens qui sont en situation de non-droit. Et c'est comme ça que vous voulez instituer un revenu d'existence pour les Français qui ont zéro ressource en échange d'une activité d'intérêt général non marchande à temps partiel. Il y a combien, pour vous, vous estimez, il y a combien de pauvres en France ?
Ah, c'est pas moi qui l'estime. Moi, je suis un homme de chiffres. Donc, d'après l'INSEE, c'est 10 millions de personnes.
10 millions. Alors, le seuil de pauvreté, c'est 900 euros.
Près de 1000 euros.
Près de 1000 euros. Entre 900 et 1000 euros. Ouais. Et donc, il y aurait 10 millions de personnes.
Voilà. Mais notre particularité, c'est important de le dire, c'est que il est important de prendre conscience que chaque fois que la puissance publique donne 1 euro, c'est 1 euro du contribuable. Donc, quand on donne 1 euro à quelqu'un, c'est important de le faire, d'autant qu'il en a vraiment besoin, quand il s'agit de la personne handicapée, de la personne en souffrance ou une personne accidentée de la vie. Mais il est important qu'à partir d'un moment, on lui demande une activité en échange. Parce que ceux qui ignorent les gens, par exemple, moi je connais très bien le sujet, hein, j'ai reçu le trophée de l'emploi par le ministre des PME, j'ai écrit 3 bouquins sur le plein emploi. Le premier problème du demandeur d'emploi, ce n'est pas que l'aspect financier, c'est le sentiment d'inutilité. Et c'est terrible de se lever le matin avec le sentiment d'inutilité, alors qu'il y a tant de besoins à pouvoir dans notre pays. Donc c'est capital que d'être en mesure que de proposer à chaque demandeur d'emploi une activité d'intérêt général non marchande pour ne pas être en concurrence avec les services marchands et à temps partiel pour que l'individu puisse effectivement faire une recherche d'emploi à sa guise. Mais c'est capital que, par exemple, pour l'indemnité des chômages, au bout de 3 mois, l'individu continue à toucher son allocation, mais je veux qu'il pratique une activité à temps partiel non marchande.
Alors, il y a les jeunes étudiants, il y a les femmes seules, il y a aussi les personnes âgées. Que vous inspire le scandale récent sur les EHPAD ? D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a licencié le directeur général c'est vis-à-vis de nos aînés. Que vous inspire un petit peu cette espèce de délabrement, de considération vis-à-vis de ces populations en souffrance, que ce soit les jeunes étudiants qui font la queue aux bourses alimentaires, les personnes âgées qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, ou les femmes isolées ou les femmes seules avec des enfants. Qu'est-ce qui se passe en France ? La démocratie est en danger ?
Ah bien oui, ça c'est clair que la démocratie est en danger quand on voit la préemption de Zemmour sur le débat politique. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il semble que les politiques découvrent des problèmes que tous les Français connaissent. Donc c'est bien de connaître les problèmes, mais c'est aussi bien d'y apporter des solutions. Chacun sait que depuis des décennies, dans les maisons de retraite, il y a une vraie problématique de la qualité de vie des habitants des EHPAD et des maisons de retraite. Mais aussi, là, je veux parler de responsabilité. Parce qu'effectivement, le directeur de la maison de retraite ou de l'EHPAD et le personnel a son rôle à jouer. Mais il y a aussi la famille. Il faut savoir que dans d'autres cultures, dans d'autres pays, la famille est bien plus présente pour l'ancien. Donc ce que je dis aux Français aussi et aux Françaises, c'est que nous aussi, nous avons notre part à faire pour suivre notre aïeul. Et c'est important de le dire. C'est pas toujours la faute qu'à la maison de retraite et qu'à l'EHPAD. C'est aussi notre responsabilité que d'avoir un vrai respect actif pour nos anciens.
Alors justement, cette solidarité, cette mutualisation... cette circulation, des fluides vous l'intégrez dans une espèce de formule que vous faites vôtre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et cette transformation, vous la mettez dans l'économie circulaire. Donc, pour vous, l'économie solidaire, c'est une économie qui se rend service les uns les autres, c'est ça?
Ben, l'économie circulaire, dans ma vision personnelle, c'est un circuit court. C'est une économie qui permet à chacun d'avoir une activité choisie. C'est une économie qui permet de faire vivre le territoire. Aujourd'hui, il y a trop d'emplois dans notre pays qui dépendent des vicissitudes de la qualité de l'économie des autres pays. Et ça, c'est une problématique pour les emplois de notre pays et pour notre économie. Et l'économie circulaire doit devenir l'économie maîtresse en France. Je veux qu'au terme du mandat présidentiel, tout soit réparé et tout soit recyclé. Vous réduisez les pollutions, vous accroissez le pouvoir d'achat, vous créez des emplois locaux, c'est tout bonus.
Et vous avez un système de vases communicants entre...
Et je veux préciser à vos auditrices et vos auditeurs qui pourraient penser, mais de toute façon, lui, il sera pas président de la République, donc vous avez raison, je ne serai pas président de la République, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'électorat de l'écologie centriste qui décidera qui accède au second tour. C'est pas qui peut faire la différence, c'est elle fera la différence. L'électorat de l'écologie centriste décidera qui va au second tour et qui gagne cette élection. Et mon rôle dans cette présidentielle, c'est de bien faire comprendre ce message-là aux écologistes de tous bords, et pas qu'aux écologistes de gauche, que c'est vraiment nous qui détenons la solution.
Alors, beaucoup prévoient, vu la crise énergétique qu'on a aujourd'hui, beaucoup prévoient la fin des énergies fossiles. Donc, le pétrole...
le gaz, le charbon.
À partir de là, quelle sera l'énergie? Le gaz, l'énergie environnementale, le plancton, les éoliennes. Pour vous, de quoi sera fait l'énergie de demain?
Ben, l'énergie d'après-demain peut être la fusion nucléaire, la fusion, et pas la fission, comme on a aujourd'hui. C'est la fusion nucléaire, qui, elle, est écologique. Mais c'est pour après-demain, mais pas si tard que ça, dans une vingtaine d'années. La première énergie d'aujourd'hui, c'est qu'on peut faire tellement d'économies. L'éducation à l'environnement, c'est capital, et l'isolation de toute construction habitée, c'est capital. Et ces deux sources d'énergie, par l'économie, d'une part éducation à l'environnement, et d'autre part isolation de tout ce qui est construit, eh bien ça fait une réduction de 50% du besoin énergétique de notre pays. Et si vous y rajoutez une société où le productivisme et le consumérisme deviennent du passé, parce qu'aujourd'hui, quand on se lève le matin, c'est avoir, avoir, avoir. Et quand vous cultivez un projet de société écologiste, quand vous vous levez le matin, c'est être, être, être. Et quand vous êtes sur ce terrain de l'être et que enfin vous commencez à quitter le terrain de l'avoir, vous avez besoin de beaucoup moins d'énergie fossile. Et c'est la seule voie. C'est vraiment la seule voie parce que dans tous les pays du monde, on s'aperçoit que les impasses arrivent dans tous les domaines parce qu'on est sur le productivisme et le consumérisme qui ne sont pas des solutions. Ce sont des apparences de bonheur à court terme. Mais le politique, il doit travailler aussi pour le moyen terme.
Alors le politique, on a l'impression qu'il fiche des gens. Parce que, regardez, si en 2008, le prix du baril de pétrole était à 147 euros. Et le litre était à... 147 dollars. Et le litre d'essence était à 1,32. En 2022, donc 12 ans après, le baril de pétrole coûte moins cher, moitié moins cher, il est de 83 euros. Et le litre est à 1,70 €. Il y a une bizarrerie que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'on est surtaxé On est victime des taxes ?
Ah ben, il y a un problème de taxes, c'est clair. Mais il y a un problème aussi de demande. Plus le produit est demandé, plus il coûte cher. Moins le produit est demandé, plus le prix baisse. Donc, il faut comprendre que par une autre économie, par un autre comportement, on aura moins besoin de cette énergie-là. Donc, non seulement elle sera plus durable, hein, parce que je pense que c'est bien d'avoir du pétrole en stock. Et c'est bien d'utiliser un peu de pétrole. Mais d'utiliser le pétrole à ce point-là, c'est-à-dire 100 millions de barils par jour, ça fait que dans 30 ans, il n'y en a plus. Et donc, dans 30 ans, il faut passer à autre chose. Et l'autre chose n'existe pas vraiment encore.
On se retrouve dans un petit instant dans Les Grands Témoins.
Les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, aujourd'hui avec Jean-Marc Governatori qui est candidat à la présidence de la République et pour qui, en tout cas, les voix qu'il rassemblera sur son nom seront décisives puisque on voit dans les sondages et qui se suivent, notamment lorsque c'est un duel entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, on voit que c'est à 2 points. On voit que c'est beaucoup du 52-48 au deuxième tour, et ça revient de façon quasiment récurrente. Bon, donc au second tour, vous voteriez, si c'était Marine Le Pen, vous appellerez à voter pour Macron ?
Ah bien sûr, bien sûr,
oui.
Bien sûr.
Mais vous êtes un adepte du Front Républicain ?
Je suis un adepte de ce qui est bon pour la population, ou en l'occurrence, ce qui peut être le moins mauvais éventuellement. Mais il faut savoir que lorsque vous avez une stratégie juste, une stratégie réfléchie, comme nous l'avons au sein de l'écologie au centre, que j'ai ou pas les parrainages, mon électorat sera décisif dans les 2 tours de la présidentielle et dans les 2 tours des législatives. Et ça, c'est formidable.
Et donc, bien sûr, les questions essentielles autour de l'écologie, pour vous, elles seront centrales. La décision, l'idée qu'Emmanuel Macron a eue de mettre les préoccupations climatiques, écologiques dans la Constitution, ça vous satisfait ?
Ah ben bien sûr que c'est une avancée. Mais si nos parents n'avaient fait que s'envoyer des lettres d'amour, on serait pas nés. Donc à un moment donné, il faut passer à l'acte. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, bien sûr, dans le mandat. Mais il y a tellement plus à faire, tellement plus à faire. Je pense que quand vous êtes sur un processus consumériste et productiviste, vous pouvez pas trouver des solutions durables et efficaces. Donc il faut sortir de ce terrain-là, il faut reconstruire par exemple la paysannerie en France. J'ai expliqué dans un de mes bouquins qu'il y a 60 ans, il n'y avait pas de chômage en France, mais la population active agricole était de 15%, aujourd'hui elle est de 2%. Donc c'est capital que d'avoir plus de paysans, parce que comme ça vous aurez plus de chômage, mais surtout vous aurez une autonomie agricole, une autonomie alimentaire. Donc il y a des mesures comme ça qu'il faut prendre, des bifurcations à prendre, qui, si vous ne les prenez pas, eh bien, vous continuez à construire l'impasse.
Jean-Marc Governatori, pour vous, le spectre politique, il est réduit à peau de chagrin, ou il y a encore un espoir pour les partis ? Parce que lorsqu'on voit la gauche qui est réduite quasiment à l'écologie, parce que c'est Jadot qui porte un peu l'essentiel du mandat de gauche, Mélenchon portant surtout la contestation, ça veut dire quoi ? Que les partis politiques n'ont plus le droit de citer en France ?
Non, les partis politiques ont encore leur rôle à jouer, effectivement. Moi, je fais beaucoup de terrain, et quand vous interrogez les gens sur le terrain, depuis des années, ils vous disent qu'ils en ont marre d'avoir toujours les mêmes, ils en ont marre des partis politiques. Mais il n'empêche que c'est toujours les partis politiques.
Je sais que vous avez beaucoup rencontré les Gilets jaunes.
Entre autres. Mais c'est toujours les mêmes qui gagnent. Donc, aux élections régionales, c'est encore des partis conventionnels et des candidats conventionnels, en l'occurrence tous les sortants, qui ont gagné à nouveau. Donc, non, les partis politiques ont leur rôle à jouer. Il faut pas tout jeter. Vous savez, on est vraiment dans le binaire dans notre pays, où c'est tout mauvais, où c'est tout bon. Je pense qu'il faut apprendre à connaître la couleur grise et il faut apprendre la couleur.
Les partis politiques comme les syndicats.
Mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
Alors, Jean-Marc Governatori, on vous connaît un peu de plus en plus, mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que vous grignotez des parts de marché. Par exemple, aux dernières élections, vous avez réussi à amener le président du conseil régional du Sud, du Languedoc-Roussillon...
Non, c'est le Sud-Est.
Du Sud-Est, Renaud Muselier, a créé un observatoire. Et cet observatoire, vous en êtes le président. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi cet observatoire, qu'est-ce qu'il doit faire et quel est un peu son calendrier ?
Ce qu'il a bien voulu créer... Parce qu'il a respecté sa parole, et c'est très rare que l'homme politique d'ampleur nationale comme ça respecte son engagement, et il l'a fait, et je remercie M. Muselier, c'est plus qu'un observatoire. C'est un office régional environnemental qui travaille sur cet axe dans l'intérêt de la qualité de vie de 5 millions d'habitants. Par exemple, l'option végétarienne quotidienne dans les 200 et quelques lycées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, développer le covoiturage, l'isolation thermique, les jardins potagers communautaires, accepter qu'il y ait une évaluation annuelle par un organisme indépendant sur l'empreinte écologique de la région, l'aide aux refuges animaux. Donc, sept axes comme ça qui vont vraiment changer la qualité de vie des habitants et qui est un laboratoire parce que lui, il est de droite. Moi, je suis écologie centriste et on arrive à travailler ensemble dans l'intérêt et pour le bien commun. Et ça, on peut le reproduire au niveau national.
Les parts de marché, ce que vous avez réussi à faire à Nice où vous êtes élu et ce que vous avez réussi à faire à Marseille, vous voulez le faire au niveau national, c'est
ça? Ah ben complètement, il faut arrêter d'être sectaire, quoi. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Soit vous êtes capable de gagner seul, vous êtes écologiste et pouvez gagner seul, ben c'est formidable, la vie est belle, mais tel n'est pas le cas. C'est pourquoi la politique suivie par M. Jadot est une impasse, parce que qu'il fasse 5 ou 9, il sera éliminé. Et il pourra s'associer à personne, il ne pourra impacter aucun politique. Donc effectivement, je suis en désaccord très clair sur beaucoup de points avec M. Macron et Mme Pécresse. Mais si les Français décident que c'est eux qui sont en situation de gagner, est-ce qu'on regarde passer le train et qu'on ne fait rien? Y a-t-il des urgences ou non? Oui, il y a des urgences. Peut-on faire quelque chose? Oui. Donc l'électorat que je représente aujourd'hui en France de quelques pourcents, c'est lui qui va décider qui gagnera. Et donc il obtiendra des avancées programmatiques en termes démocratiques, en termes environnementaux, en termes économiques et en termes sanitaires.
Alors est-ce que vous pouvez... Je sais que vous vous appuyez sur un réseau national de citoyens, de groupes de citoyens. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les réseaux, quelles sont les forces qui vous soutiennent?
L'écologie au centre est présente dans chaque département de notre pays. Nous avons des centaines de comités locaux, pratiquement un dans chaque circonscription. J'ai la chance de travailler avec Patrice Mirand, d'ailleurs qui est cofondateur d'Europe Écologie et qui les a quittés voilà 20 ans. Sophie Spénato, qui est élue en région lyonnaise. Salim Ayembou, qui est députée européenne en Île-de-France. Rachid Nokrane, qui est le porte-parole national. Vraiment une équipe très large. Gideon Wesozinski, qui est conseiller régional dans le Grand Est. Une super équipe. On est présent partout. On est porté par ce projet de société qui est la solution aux problèmes qui ont été créés par les partis candidats conventionnels. Donc, cette force territoriale, elle est capitale pour faire la différence avec
les marche sur deux pieds, la citoyenneté, la cohésion nationale. C'est-à-dire, l'un va avec l'autre.
Ah, on peut le dire comme ça, oui.
D'accord. Et donc, bien sûr, vous vous insurgez contre tous ces discours, contre l'envahissement, contre l'hypersécurité, contre la France serait menacée par des forces obscures. Donc, bien, vous vous insurgez contre ça.
Moi, je suis écologiste centriste, je ne regarde que les faits. Donc aujourd'hui, pratiquement 100% du territoire français, 100% du territoire français habité n'a aucun problème d'immigration. Oui, il peut y avoir des problèmes d'immigration très ponctuels ici et là, mais l'essentiel de notre territoire français ne connaît pas ça. C'est pas le souci. Ce n'est que dans la bouche de certains politiciens qui ont trouvé là un biais pour faire des voix. Mais nous, notre boulot, c'est pas de faire des voix. Notre boulot, c'est de construire le bien-être durable pour la population française.
Donc vous prêchez pour une France réelle, une France de tous les jours. Et eux, quoi, c'est une France théorique, mystique, théorique, virtuelle, qui n'existe pas, qui n'existe plus.
Pour ce qui me concerne, je souhaite pas condamner des adversaires qui sont absents. Moi, je suis là pour bâtir et construire. Donc nous pensons, avec les écologistes centristes, proposer le meilleur projet de société possible. Voilà, on est là pour bâtir, on n'est pas là pour condamner. Chacun fait ce qu'il croit être juste. Et le dimanche 10 avril 2022, l'électeur fera face à ses responsabilités. Le moment où le citoyen français a le plus de pouvoir, c'est le jour du vote. Donc le dimanche 10 avril, le peuple français a tous les pouvoirs de voter pour qui il veut, de garder qui il veut, d'élire qui il veut. Et c'est un jour capital.
Alors, de quoi votre programme va être fait pendant cette campagne présidentielle? Quels sont les rendez-vous que vous donnez à nos auditeurs, nos auditrices? Quelles sont les échéances? Quel est le calendrier? Quels sont les rendez-vous que vous pouvez donner?
Je sillonne la France chaque jour. Je vais à la rencontre de nos délégations départementales. Je fais des conférences de presse. Donc, ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, trouveront sur notre site tous mes déplacements. Mais je vais partout dans notre pays, parce qu'il est capital qu'il y ait ce message d'espoir, parce que vous observerez que beaucoup d'électrices et d'électeurs sont un peu dépités des messages qu'ils entendent, et de la continuité des messages. Si on faisait l'effort d'écouter la campagne 2017 et qu'on la comparait à la campagne 2022, malheureusement, dans le propos, il y a beaucoup de ressemblances, quoi. C'est incroyable, ça ne change pas. Et donc, la différence, elle est bien portée par l'écologie au centre et son projet.
Et en tout cas, dans votre programme, il y a quelque chose de très important. C'est, en tout cas, l'éducation à l'environnement, l'éducation à la santé. Vous pensez que l'après-Covid, ça doit être vraiment... On doit prendre à bras-le-corps l'éducation des jeunes générations, des enfants, au sport, à la santé, à la culture. C'est ça aussi l'écologie au centre ?
Ah ben c'est ça, c'est l'autonomie, c'est de nouvelles règles démocratiques, c'est la conscience par les citoyens qui sont co-responsables de ce qui se passe et qu'on peut tous contribuer à aller vers, dans un autre sens, parce que vous observerez que Antonio Guterres, qui est le patron de l'ONU, a dit que dans 50 ans, 50% de la planète ne sera plus habitable. Alors certains vont me dire, oui mais la France c'est 1% de la population mondiale. Partant de ce principe-là, on ne fait rien. La France a une grosse capacité d'exemple, une très grosse capacité d'exemple. Et si à travers un nouveau président ou une nouvelle politique, on allait avec la France dans notre sens, ça impacterait tous les pays du monde.
Jean-Marc Gambetta, on a bien compris que, comme beaucoup d'écologistes, en tout cas des René Dumont, des Pierre Rabhi et j'en passe...
Et Pierre Rabhi, oui.
Vous ne vous sentez pas propriétaire de la planète Terre, mais que simplement vous l'empruntez à vos enfants, vous l'empruntez à nos enfants, et que ce sont ces enfants dont vous avez la mission, en tout cas, de porter un peu les espoirs. Merci d'être venu dans Les Grands Témoins, et on se retrouvera très bientôt, j'espère, pour vous suivre dans le cadre de votre campagne électorale.
Merci, Monsieur Kétan.
Merci.
Retrouvez Les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.